le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je vous retrouve avec plaisir en ce dimanche matin. Vous êtes à l'écoute du service protestant sur France Culture. Aujourd'hui, nous accueillons James Woody de l'Église protestante unie de France. Il est pasteur au temple de la rue Maguelone à Montpellier. Pour en finir avec les sacrifices, c'est le thème de la méditation d'aujourd'hui.
Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous ce temps de culte. Un temps pour se libérer de bien des entraves qui nous empêchent de porter notre vie à son incandescence. Commençons par une prière dans laquelle nous pouvons dire notre émerveillement face à la vie. Oui, pour le monde si beau, mais si fragile, pour la vie si belle, mais si souvent menacée, pour cet univers immense où peut s'épanouir un règne d'amour, nous disons notre reconnaissance. Pour l'Évangile, qui nous révèle que nous avons notre place dans le monde, pour la promesse d'une vie éternelle, nous disons notre reconnaissance. Et parce que nous sommes aimés, et que nous sommes rendus capables d'aimer sur la terre, au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, nous disons notre reconnaissance. Amen. Prenons également un temps pour reconnaître nos manquements, pour reconnaître la distance qu'il y a entre ce que nous aurions pu faire et ce que nous avons fait effectivement. Seigneur, pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu l'Évangile avec nos fausses sagesses. Pardonne-nous d'avoir restreint notre service à ceux qui nous plaisent. Pardonne-nous notre médiocrité, notre manque d'amour et de générosité. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. En réponse à notre prière, écoutons cette parole qui retentit dans le livre du prophète Ésaïe et qui exprime l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Le prophète Ésaïe déclare ceci : une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas, dit l'Éternel. J'ai ton nom gravé dans la paume de mes mains et je t'aime d'un amour éternel. À quoi sert l'amour de Dieu ? À nous donner la force et le désir de vivre, et de vivre dans un esprit de service. La Bible dit de plusieurs manières ce que Dieu nous rend capable de vivre, et ce qu'il faudrait éviter de faire. Toujours dans le livre du prophète Ésaïe, nous pouvons entendre ce dont il faut se libérer et ce que nous sommes appelés à faire. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Voici le jeûne que je préconise, dit Dieu. Brise les chaînes injustes. Dénoue les liens de tous les jougs. Délivre ceux qu'on opprime. Mets fin à tout esclavage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison le malheureux sans asile. Couvre celui qui a froid. Ne te détourne pas de celui qui est ton frère. Avant de lire un passage de la Bible qui nourrira notre méditation, puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portés à sa plénitude. Amen. C'est dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, que je vais vous lire quelques versets du chapitre 10. Au chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, nous allons entendre les versets 10 à 18. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit ». Il ajoute « je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il serait peut-être temps d'en finir avec les sacrifices. Oh, bien sûr, nous avons déjà entendu ce texte, ou une version approchante, disant qu'il est fini le temps des sacrifices. Non seulement Jésus a fermé la saison des sacrifices, mais bien avant lui, les prophètes disaient que Dieu ne veut pas des sacrifices, que cela ne correspond pas du tout à ce qui est attendu de nous. Toutefois, force est de constater que l'esprit sacrificiel a encore de beaux restes. Et c'est contre cela que ce passage de la lettre aux Hébreux milite, en repérant deux types de sacrifices dont il s'agit de se libérer. D'une part, le ritualisme, et d'autre part, le passé. Le problème du ritualisme, c'est qu'il fait de la religion un ensemble de pratiques qu'il faudrait reproduire scrupuleusement pour être quitte de ses obligations envers Dieu et pour avoir la conscience tranquille. Le problème, c'est que cela finit par ne plus avoir de sens. On fait les gestes par habitude, on répète les mêmes rituels, sans se demander pourquoi, sans même se demander si cela a encore le moindre sens. Les prêtres qui officiaient au temple ne se posaient pas trop de questions, visiblement. Chaque jour, ils faisaient des sacrifices et ils répétaient les mêmes gestes, parfois pour les mêmes personnes. Et ils ne se rendaient même pas compte que ce qu'ils faisaient ne fonctionnait pas, que leur sacrifice ne permettait pas d'obtenir le pardon des péchés, puisqu'il fallait recommencer inlassablement. Ce passage de l'Épître aux Hébreux, en interrogeant les pratiques et en remettant en cause l'efficacité des sacrifices, nous dit que la religion ne devrait jamais se dispenser d'un esprit critique, d'un esprit qui interroge. Nous avons peut-être du mal, de nos jours, à mesurer la portée d'une telle critique de la pratique des sacrifices. Mais il faut bien prendre conscience que le sacrifice était au cœur de la foi juive. Le temple de Jérusalem était tout occupé aux sacrifices qui se succédaient tout au long de la journée. Le sacrifice était le pilier du judaïsme. Remettre en cause le sacrifice, c'était s'attaquer au fondement même de la religion. Ce serait comme remettre en cause la prédication dans le culte protestant. Voilà donc la liberté avec laquelle ce rédacteur biblique aborde la question religieuse. Il n'y a pas de tabou. Rien n'est sacré au point qu'on ne puisse l'interroger. Et comme je vous le disais, cette manière d'être n'est pas innovante. Elle s'inscrit dans le droit fil de tous ces prophètes qui se sont succédés pour gratter le vernis religieux, pour interroger les certitudes. Par exemple, le rédacteur du Livre des Rois attribue au roi Salomon un tel esprit critique. Quand il eut fini de faire bâtir le premier temple de Jérusalem, qui devait être la maison de Dieu, Salomon déclara au moment de son inauguration « Mais Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie ?» Cela nous invite à considérer que la religion ne devrait jamais être l'affaire d'une soumission docile à des évidences qui ne sont pas interrogées. La religion ne devrait jamais être une soumission à des habitudes qui peuvent devenir nocives. Prenons le cas du sacrifice pour le pardon des péchés, tel que cela était vécu au temps de Jésus. Vous aviez un poids sur la conscience. Vous alliez changer votre argent romain contre l'argent du temple et vous achetiez des animaux en proportion de ce dont vous aviez besoin de vous faire pardonner. Et vous étiez quitte. Cela, c'est de la pensée magique. C'est l'idée selon laquelle il y a des arrangements possibles avec des forces surnaturelles qui nous dispensent de régler nos problèmes et d'arranger les situations. C'est on ne peut plus nocif, car cela crée de douloureuses désillusions lorsqu'on se rend compte que la vie ne fonctionne pas comme cela. C'est nocif parce que cela donne l'impression que les problèmes ont été réglés alors qu'il n'en est rien. Les situations continuent à s'envenimer et deviennent invivables. Les rites sont très utiles pour accompagner la vie, pour aider à accomplir les passages nécessaires d'un stade à un autre de notre existence. Ils permettent d'accéder à des aspects de la vie qu'on pouvait ignorer jusque-là. Mais le ritualisme, qui consiste à penser qu'on obtient mécaniquement quelque chose en accomplissant les bons gestes et en disant les bons mots du rituel, le ritualisme nous trompe cruellement. Et d'ailleurs, les sacrifices, tels qu'ils sont présentés dans le livre biblique du Lévitique, sont bien autre chose que ce qu'ils étaient devenus par la suite. Dans le Lévitique, ce n'est pas le sacrifice qui permettait d'être pardonné. C'est parce qu'on était pardonné qu'on faisait un sacrifice, qui n'était pas autre chose qu'un repas destiné à montrer que la relation brisée avait été restaurée et qu'il était désormais possible d'avoir ensemble un geste de convivialité particulièrement significatif, le repas. Autrement dit, le sacrifice, primitivement, ne nous dispensait pas d'exercer nos responsabilités, ni de prendre les situations problématiques à bras-le-corps. Bien au contraire, le sacrifice disait que les responsabilités avaient été prises et qu'on avait traité le sujet. Quelle différence avec le ritualisme qui fait croire qu'avec 5 ave et 2 pater, tout est réglé. La deuxième chose à laquelle il faut cesser de se sacrifier, c'est le passé. Vivre sans passé, c'est certainement manquer des repères et des expériences qui nous éviteront quelques déconvenues. profiter de l'expérience de nos anciens, profiter des grands récits mythiques qui dressent une carte des menaces et des points d'appui utiles pour avancer dans la vie, c'est ce qui nous fait gagner du temps. C'est aussi ce qui nous permet d'avoir une vie plus intéressante. Mais tout cela doit nous servir à être présents au présent. Si c'est pour nous coller le nez sur le passé et devenir obsédés par notre passé, nous oublierons tout simplement de vivre notre propre histoire présente. Cela est vrai en particulier de nos erreurs et de nos fautes. C'est pour cela qu'il est question de pardon dans l'Évangile. C'est pour cela que l'Épître aux Hébreux cite le prophète Jérémie qui rapporte les propos de l'Éternel. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Je ne me souviendrai plus. Cette expression est vraiment intéressante. Contrairement à la première impression, elle ne dit pas que le pardon consiste à oublier, voire à faire comme si rien de fâcheux n'avait eu lieu, comme si nous n'avions commis ou subi aucun mal. Ne pas se souvenir, c'est bien autre chose qu'oublier. Ne pas se souvenir, c'est ne pas faire l'effort de se rappeler constamment quelque chose. Ne pas se souvenir de la faute, c'est ne pas entrer dans ce jeu terrible de la célébration du malheur. Le pardon nous permet de ne pas être malade de notre mémoire, de ne pas être malade des souvenirs du passé, en particulier lorsque le passé a été pénible. Le pardon nous libère de ce que le passé a pu avoir d'invivable. Ne pas se souvenir des fautes, c'est ne pas entretenir la mémoire des situations où nous avons été coupables, ni des situations où nous avons été victimes. C'est à cette condition que nous pouvons cesser d'être un coupable ou une victime, deux états qui sont aussi invivables l'un que l'autre. Le véritable pardon consiste à libérer tout le monde d'un passé qui pourrait devenir une prison. Aussi bien le coupable qui peut espérer vivre autre chose qu'un rôle de coupable, que la victime qui a le droit de vivre autrement que comme une victime perpétuelle. Ne pas se souvenir des fautes, c'est aussi considérer qu'une personne vaut plus que ce qu'elle a pu dire ou faire. Une personne a le droit de changer, d'évoluer, de devenir plus humaine. Ne pas rester bloqué à une situation négative du passé, c'est considérer qu'un être n'est pas figé. Que Dieu ne se souvienne pas de nos fautes signifie que nous ne sommes pas condamnés à demeurer ce que nous avons fait par le passé. Le pardon, qui n'efface pas le passé, nous libère du passé lorsqu'il devient un boulet qu'il faut porter avec soi à chaque instant. Le pardon permet que le passé cesse d'être notre seul horizon. Dans ce passage de l'Épître aux Hébreux, nous découvrons que la religion, c'est ce qui nous permet d'identifier tous les mécanismes que nous entretenons, mais qui ne nous aident pas à vivre. La religion, c'est ce qui nous autorise à laisser de côté des idées répandues, mais fausses. C'est ce qui nous autorise à aborder chaque situation comme une situation nouvelle, inédite, et par conséquent, à ne pas appliquer aveuglément les recettes du passé qui ne conviennent pas forcément à ce à quoi nous sommes confrontés. La religion, telle qu'elle est présentée ici, n'est donc pas une morale de principe qui consiste à avoir toujours les mêmes réponses, quelles que soient les personnes concernées, quels que soient les lieux ou les circonstances. La religion, telle qu'elle se révèle ici, nous invite à une éthique de la responsabilité qui consiste à inventer nos propres réponses, à répondre personnellement aux défis qui se présentent, en mobilisant notre imagination, notre créativité, nos expériences personnelles, mais aussi l'expérience de ceux qui nous ont précédés. C'est cela, avoir la loi de Dieu dans le cœur et dans notre intelligence, plutôt que sur les lèvres. Comme nous y invite cette lettre aux Hébreux à la suite du prophète Jérémie, il ne s'agit pas de justifier nos choix de vie à coup de versets bibliques ou d'articles de loi, mais de penser les situations en exerçant notre jugement personnel, pour adapter les grandes règles universelles aux questions qui se posent et qui ne rentrent jamais parfaitement dans les cases prévues par la loi, par les codes ou par les ayatollahs de la norme. Ainsi, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas répéter inlassablement des rituels d'autrefois, ce qui priverait notre vie de sens et, par conséquent, on la plongerait dans le chaos. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas répéter inlassablement le passé, ce qui reviendrait à faire bégayer l'histoire. Faire la volonté de Dieu, c'est libérer toute personne de telle manière qu'elle cesse de se sacrifier et qu'elle puisse faire valoir ses talents personnels. Amen. Avec le passage de la lettre aux Hébreux que nous avons médité, nous comprenons un peu mieux ce que Dieu nous appelle à vivre et, par conséquent, nous en découvrons un peu plus sur Dieu. Cela nous permet de renouveler notre manière de dire notre foi et notre manière de parler de Dieu. Nous pouvons donc exprimer notre foi avec ces mots « Nous croyons en Dieu ». Nous ne pouvons ni le définir ni l'atteindre. Il désigne ce qui nous dépasse infiniment. La Bible nous révèle que Dieu est source de l'amour, ce qui rend chaque être humain digne d'être aimé de manière inconditionnelle, quelle que soit son appartenance, quel que soit son passé. L'amour de Dieu est ce qui nous autorise à faire valoir nos talents en nous libérant de l'esprit de sacrifice et en libérant notre créativité du prêt-à-penser. Nous croyons en Dieu. Il se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans l'histoire, dans la nature et dans l'art. Il se rencontre dans celui qui s'est abaissé, oublié, donné, dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous métamorphoser. Il est en Jésus le Christ, qui a pleinement vécu pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité, qui fait jaillir en nous une vie nouvelle, une vie sans regret, la vie éternelle. Nous croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion pour le prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute, et fait naître une espérance qui nous permet de voir plus loin que ce que l'actualité nous montre. Amen. Unissons-nous dans une prière qui nous ouvre sur le monde. Dieu notre Père, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que, nous pardonnant les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Dieu notre Père, nous te demandons de nous aider à faire partie des personnes qui ont un esprit de sagesse, qui ont une parole qui libère et qui renouvelle. Apprends-nous à laisser derrière nous ce qui est dépassé. Apprends-nous à nous ouvrir aux choses nouvelles, tous ces projets que tu veux commencer avec nous. Aide-nous à ne pas nous en tenir à une pratique ritualiste de la religion. Et libère-nous tous du passé, de ce passé qui nous empêche de répondre aux défis qui se présentent aujourd'hui. Toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades et les mourants, les prisonniers, les isolés, les victimes de la guerre, de l'injustice, du désordre, et pour tous ceux qui souffrent, de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers. Nous te prions aussi pour ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables politiques, afin qu'ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. Veille sur ton peuple, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Libère-le de ses compromissions, de ses paresses, de ses lâchetés, et donne-lui la force de chanter tes louanges, de chanter la fraternité, de combattre pour la justice. Oui, veuille te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour accomplir ton espérance. Cette espérance, nous la reconnaissons dans ces mots que Jésus a enseignés à ses disciples et que nous prenons à notre compte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, entendons une parole qui nous dise bien ce qu'est la vie qui s'ouvre devant nous, une parole de bénédiction qui nous affirme ceci: le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.
Ce service protestant du dimanche matin sur France Culture s'achève. Pour en finir avec les sacrifices, c'était le thème de la méditation d'aujourd'hui. Merci au pasteur James Woody de l'Église protestante unie de France à Montpellier. Merci à vous pour votre écoute et pour votre fidélité. Nous saluons chaleureusement ceux qui nous rejoignent pour la première fois en ce dimanche matin. À la prise de son, Cédric Châtelus. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Si vous souhaitez réécouter cette méditation, je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Si vous désirez recevoir le texte de ce dimanche ou nous faire part de vos réflexions, écrivez-nous au service radio de la Fédération protestante de France. Nous sommes au 47 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement de Paris. Restez à l'écoute de France Culture à 9h, le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun. Thank you.